salut à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique Sporama. C'est l'heure. Merci Jean-Roger Billon. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants de la semaine. Et nos consultants et analystes sont en ligne. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci. Dans ce programme de ce lundi 29 avril 2024, les affiches des finales des compétitions interclubs sur le continent connues après les demi-finales retour. Nous parlerons aussi des demi-finales allées de la Ligue des champions en Europe, mais aussi de la Basketball Africa League dont la conférence NIL a désigné s'est qualifiée pour les playoffs. Merci à tous de rester à l'écoute et à vous. Chers consultants, d'être avec nous avant de commencer. Alors, l'information est tombée il n'y a pas très longtemps. Jules Valentin Goué, Georges Finidi, a été nommé coach et donc sélectionneur du Nigeria. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et Finidi, déjà sur le terrain, et c'était un monsieur, c'était un leader et en même temps quelqu'un qui orientait les autres et pouvait même supplier l'entraîneur pendant qu'il jouait. Donc, c'est une bonne chose de voir ces anciens joueurs africains prendre les rênes de nos grandes équipes de football.
On va rappeler que l'ancien sélectionneur, donc José Peseiro, a quitté les Super Eagles à la fin de la dernière CAN perdue par le Nigeria en finale 2-1 devant la Côte d'Ivoire. Amdine Sy, Georges Finidi, donc, qui prend les rênes de l'équipe nigériane. On revient aux sélectionneurs locaux, s'il faut le dire
oui,
ainsi.
Tout à fait. Tout à fait, Yacouba. C'est toujours une bonne chose de voir un ancien footballeur qui a quand même marqué quand même le football africain par ses exploits sur le rectangle vert. C'est toujours intéressant de les voir à la tête d'une sélection nationale. Mais il faudra faire ses preuves, comme je l'avais dit, comme ce que Aliou Cissé a réussi avec le Sénégal. Donc, nous lui souhaitons que bonne chance, puisque le fait d'être un bon footballeur ne veut pas forcément dire un bon coach. En tout cas, c'est tout le mal que nous lui souhaitons, Yacouba.
Merci, Amdine. On va rappeler que Georges Finidi a été aussi l'entraîneur adjoint de José Peseiro, donc à la tête des Super Eagles. Alors, on commence maintenant vivement avec les demi-finale retour de la Coupe CAF après le 0-0 auquel le Zamalek a réalisé une performance XXL en allant battre bien sûr les Ghanéens de Dreams FC chez eux 3-0. Élisée, pas d'exploit à domicile pour les Ghanéens après le match aller, il faut le reconnaître courageux.
C'est vraiment courageux. L'exploit c'était à l'aller où ils n'ont pas encaissé le but, ils ont tenu tête aux Usés et ils ont même raté de peu deux occasions, sinon ils allaient l'emporter à l'aller. Mais au retour, les Zamalek avaient mis très haut là-bas et puis voilà, là, son attaquant béninois Samson Akinyola frappe très fort d'entrée et a permis, sur une passe encore décisive, a permis aux Zamalek de prendre rapidement deux buts d'avance. Puis après, le match est plié. Les Égyptiens ont quand même géré cette rencontre de bout en bout pour finalement l'emporter 3-0. C'était difficile à l'aller où la pression était énorme, mais le club égyptien s'est bien débarrassé de cette surprenante équipe du Dream FC du Ghana qui a fait forte sensation durant cette saison quand on prend son parcours, puisque le club a fini en tête dans son groupe avant d'éliminer le stade malien de Bamako, vous imaginez, et rêvait de réaliser un autre espoir, mais ça s'est passé à côté, puisque en face, c'était un grand club du continent africain. Zamalek sera bien sûr en finale de cette Coupe de la CAF 2024.
Et justement, le 12 mai prochain, pour la finale aller, le Zamalek va affronter la Renaissance sportive de Berkane, qui, comme à l'aller, n'a pas pu jouer hier contre le tenant du titre, l'USM Alger. Les problèmes continuent donc et les Algériens contestent le maillot que porte le club marocain de Berkane, sur lequel est dessinée la carte du Maroc avec le Sahara occidental. Y compris, la CAF avait déjà tranché lors du match aller, donnant une victoire 3-0 sur tapis vert à Renaissance sportive de Berkane. Amine Birouk revient sur ce non-match et sur ce dernier incident.
C'est l'épilogue d'une logique qui frôle l'absurde ou qui le dépasse. Au match aller, vous avez remarqué que l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane était venue avec la volonté de disputer ses chances sur l'aire de jeu face à l'USMA, avec un maillot qui a été homologué par la CAF, mais qui avait été retenu à la douane à l'aéroport d'Alger. Après de multiples palabres, les deux équipes n'avaient pu disputer le match et les arbitres avaient envoyé à la CAF un rapport. Un rapport qui a permis à la commission interclub de prendre le dossier à bras-le-corps et de donner la RSB gagnante sur tapis vert sur le score de 3-0. Les contingences, les mêmes contingences politiques ont été dominantes au match retour à Berkane. L'équipe de l'USMA est venue vendredi après avoir épuisé toutes les voies de recours légales au sein de la CAF, puisqu'elle avait fait appel de la décision qui a été ratifiée par la commission d'appel. Et lors de la réunion technique qui a précédé la rencontre, les dirigeants algérois ont déposé des réserves sur ce maillot. Le commissaire du match a rejeté cette décision, cette volonté de faire appel ou ses réserves, et les a déboutés. Du coup, alors que le stade était archi plein Berkane ce dimanche soir, que les joueurs de la RSB s'apprêtaient à disputer la rencontre, que l'arbitre Jean-Jacques Ndala était prêt pour officier, les dirigeants du club algérois ont décidé de déclarer forfait et du coup ont quitté l'aire de jeu, le terrain, avant le coup d'envoi, laissant les spectateurs, les joueurs de la RSB et l'arbitre seul sur le terrain. Aujourd'hui, la commission interclub va ratifier certainement dans les prochaines heures le résultat du match retour avec à nouveau 3-0. Mais ce qu'encourt le club algérois, c'est une sanction, une suspension de 2 années de toute compétition de la CAF. L'équipe sera privée du prize money. Et ce qui est beaucoup plus grave, la commission de discipline va devoir prendre des décisions assez radicales dans les prochains jours, et il y aura certainement de lourdes sanctions financières également, puisque il y a eu un grave préjudice pour la Confédération africaine de football, pour ses annonceurs, pour les télévisions qui ont acheté les droits du match et pour le public qui voulait assister à un derby maghrébin où il y aurait du suspense, de l'émotion, de la passion et des buts.
Voilà, et donc rien de tout cela n'a eu lieu hier. Alors, Jules Valentin Gouet, on peut se demander jusqu'où iront ces bisbilles hein, entre Marocains et Algériens. Et pour rappel, ce n'est pas la première fois que cela arrive.
Bien sûr, c'est le cas de le dire. Et donc, en fin de compte, il est logique que, disons, les instances supérieures prennent des décisions conformément au texte. Mais le problème de fond, c'est savoir s'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire laisser de la place quand même, un peu plus de place aux autres. Et je l'ai rappelé plusieurs fois, et il y a eu des durs moments entre plusieurs pays qui sont dans la, qui jouent au sein de la FIFA. Mais on a toujours réussi à faire privilégier le football. Nous espérons que ceci va donner une leçon à tout le monde et que au niveau de la CAF, nous n'aurons pas éternellement ce genre de problème.
Affiche de la finale également connue en Ligue des Champions, ça sera à l'Ali Espérance de Tunis. Le tout-puissant Mazembe n'a visiblement pas été tout-puissant face à Al-Ahly, bien sûr, le champion en titre au Caire. 3-0 pour les Égyptiens. Mais Lamine Diaye, entraîneur des Corbeaux, se dit déçu du comportement des arbitres du match. On l'écoute.
Ce match-là ne mérite pas de finir à 3-0. Déçu, parce que, vous savez, en Afrique, je pense, si on veut avancer vraiment, il faudra que les arbitres soient sérieux. Parce que, dès le début du match, on a vu qu'il arbitrait que dans un sens. Et ça, vous savez, nous sommes des êtres humains. Ça décourage, ça déconcentre et je pense qu'il a joué un rôle très négatif dans ce match-là. Et Ahly n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup d'efforts. Si on veut vraiment progresser en Afrique, il faut faire des efforts de ce côté-là.
Alors, Amdine Sy, on a entendu Lamine Diaye pousser un coup de gueule, hein, parler beaucoup de l'arbitrage. Encore, a-t-on envie de dire, bien sûr?
Moi, je pense que mon compatriote Lamine Diaye est un mauvais perdant. Hein, parce qu'on a vu ce match et Al Ahly mérite sa victoire, Al Ahly mérite sa qualification. C'est vrai que le but refusé par la VAR a été le tournant du match. Mais pour c'était à la 58e minute. Mais je pense qu'il y a eu une main de l'avant-centre congolais. Et c'est logiquement qu'on a refusé ce but. Et pour en revenir à ce match, mais je l'avais dit, un 0-0, c'est toujours un résultat piège, surtout quand on joue devant une équipe comme Al-Ahly, qui est composée de joueurs très expérimentés. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le jeu de l'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dominé ce match de bout en bout. Et à force d'attaquer, ils ont fini par marquer des buts. Et ils ont été transcendés par le public. Et c'est tout à fait naturel que les Diables Rouges gagnent ce match aisément par 3-0. Certes, on va revenir encore une fois sur ce but refusé parce que le tournée du match, c'est tout juste après ce but refusé, mais je pense que cette qualification est méritée pour Al Ahly qui va jouer sa 5e finale consécutive. Yacouba.
Al Ahly donc qui va jouer sa 5e finale consécutive. Al Ahly qui est champion en titre. Alors, Élisée, on le sait, c'était un scénario pareil hein, pour le tout-puissant Mazembe lors du quart de finale contre Petro. Cette fois-ci, ce n'est pas passé pour les Congolais.
Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que ce but refusé hein, a changé complètement la physionomie du jeu où les Congolais ont cru un instant qu'ils ont pris l'avantage et pouvaient changer le jeu, puisque quand vous êtes mené, il est souvent difficile de revenir au score, même à domicile, on l'a vu, hein. On l'a vu durant cette compétition où des équipes qui étaient en déplacement se sont qualifiées. L'exemple, c'est l'Espérance de Tunis, on vous imagine. Le TP Mazembe a eu cette chance face au Petro Atlético de Luanda, mais ça n'a pas passé contre Al Ahly sportivement. En tout cas, la bonne nouvelle est que les Corbeaux ont retrouvé un très bon niveau, hein, puisque depuis près de 4 saisons consécutives, les Corbeaux louchois n'ont pas réussi même à se qualifier pour la phase de poule. Depuis que Lamine Diaye est revenu au club, l'équipe a commencé par enchaîner de bons résultats. Un témoin même, sa grande performance en championnat lors des playoffs, c'est 6 matchs, 6 victoires. Vous imaginez, le TPM Mazembe est en forme et aura quand même les saisons à venir pour s'illustrer. En tout cas, le fair play impose et puis on prend ça sportivement.
Bien évidemment, on prend ça sportivement. En finale, hein, Al Ahly du Caire va croiser l'Espérance de Tunis qui a éliminé les Mamelodi Sundowns 1-0 à Pretoria. Jules Valentin Gouet, il faut le reconnaître, les Tunisiens reviennent de loin.
C'est le cas de le dire, parce que j'ai rarement vu un match qui se jouait ainsi en défense-attaque. Le Mamelodi Sundowns a complètement dominé le match, mais il s'est heurté à la philosophie de jeu habituelle des Tunisiens, qui sont d'un réalisme cynique pratiquement. Et vous voyez par exemple que le but tunisien marqué à la 57e minute par Boujina arrive dans les conditions telles que c'est la première entrée des joueurs dans la surface de réparation pratiquement, le premier tir et c'est un but. Alors que Mamelodi Sundowns a eu une flopée d'occasions de but et a été également freiné par l'excellent gardien tunisien Memic qui a fait un match extraordinaire. Mais en résumé, c'est un véritable hold-up que l'Espérance de Tunis a réussi et je crois que c'est dans son esprit, ça va lui permettre de reprendre du poil de la bête.
Voilà une finale de la Ligue des Champions 100% maghrébine que nous analyse Amine Birouk.
C'est une finale classique de Ligue des Champions à laquelle nous aurons droit. Elle y a fait parler son expérience face à la jeune formation du TP Mazembe. Après le 0-0 concédé à Lubumbashi, les joueurs du club congolais ont cru faire la différence à un moment du match. Ils avaient tenu en respect la grosse artillerie de l'équipe d'El Ahly. Ils avaient même ouvert le score. Mais la VAR en a décidé autrement. Et c'est sur les 30 dernières minutes du match que l'équipe égyptienne a fait parler son expérience, l'habitude qu'elle a de disputer ces grosses rencontres, ces rencontres en jeu. Et la différence s'est faite à 3 reprises. Une victoire qui ne reflète nullement la différence entre les deux équipes sur les 180 minutes des rencontres disputées à Lubumbashi et au Caire. C'est la 5e qualification d'affilée en finale de la Champions League d'El Ahly qui est véritablement le roi d'Afrique, le Real Madrid d'Afrique. Et évidemment, l'équipe égyptienne aura encore l'avantage de disputer la finale retour à domicile, cette fois-ci face à l'Espérance de Tunis dans un remake des finales de 2017 et 2018. L'Espérance qui revient petit à petit au niveau auquel elle nous avait habitués lors des dernières années. Après une victoire à l'arraché face à Mamelodi Sundowns, le match retour devait être beaucoup plus compliqué pour les espérantistes. Mais les sang et or ont fait parler leur métier depuis l'arrivée de leur entraîneur portugais. C'est une équipe rodée aux joutes, c'est une équipe très disciplinée tactiquement qui a su contenir les assauts lors d'un match qui a été interrompu par une tornade. On est habitué à ce genre d'aléas climatiques en Afrique du Sud. Et c'est sur l'un des rares contres menés par les sang et or que ces derniers ont fait la différence à la 62e minute. Et on remarquera qu'à chaque fois, Mamelodi Sundowns, dans les matchs à élimination directe, dans les matchs en jeu, n'arrive pas à faire parler tout son potentiel face à des équipes d'Afrique du Nord beaucoup plus disciplinées tactiquement. Auparavant, c'était l'Ouidet de Casablanca, maintenant c'est l'Espérance de Tunis. Et du coup, alors que l'on disait que l'Afrique du Nord était en perte de vitesse, c'est une finale à 100% nord-africaine qui aura lieu en Champions League avec une manche aller à Tunis, à Rhadès, et une autre du côté du Caire. A priori, avantage pour l'El Ahly, qui demeure l'équipe la plus expérimentée du lot et qui fera peut-être parler son ADN habituel.
En Europe, les demi-finales aller de la Ligue des Champions se jouent dès demain. Gros match en vue entre le Real Madrid et le Bayern à Munich. Élysée, en entrant sur la pelouse de l'Allianz Arena, ce sont les deux plus beaux palmarès du football européen qui vont se croiser. 14 titres pour le Real Madrid, détenteur du record bien sûr, et 6 pour le Bayern. Troisième, le plus titré bien sûr.
Oui. Bien évidemment, derrière le Milan qui en contre 7. Donc, ça va être une très belle affiche entre deux grosses équipes qui ont connu parallèlement leur chemin. Bayern de Munich qui a connu un début de Ligue des Champions très compliqué, très difficile. Même en championnat, on a vu les résultats puisque le club bavarois a laissé son titre au Bayer Leverkusen. Le Real Madrid, quant à lui, sauf quand même littéralement sur toutes les compétitions la compétition, j'allais dire donc. Vous voyez, le Real Madrid est très en forme actuellement. La Liga est presque dans la poche. La Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne déjà remportée. Et ben voilà, la Ligue des Champions est très proche de cette équipe. En demi-finale, le Real aura fort à faire puisque déjà, en déplacement du côté de Munich, ça va être un match très compliqué, très difficile puisque c'est vrai que l'équipe est très en forme actuellement. Mais attention aux Bavarois qui ont dans leur rang le Goliath anglais Harry Kane qui va vouloir faire parler de lui, donc ça va être une affiche qu'il faut suivre à tout prix.
Voilà, et donc, bien sûr, Harry Kane qu'il faut suivre à tout prix. Amdin Sy, le Bayern est dans une sorte d'opération pour sauver sa saison après avoir lutté vainement pour le titre face à Leverkusen en championnat.
Tout à fait, tout à fait. C'est une opération sauvetage pour le Bayern de Munich qui a vu le Bayern Leverkusen remporter le titre au nez à la barbe de ces joueurs du Bayern qui avaient l'habitude de gagner vraiment le championnat. Maintenant, il faut sauver cette saison à tous les prix en faisant quoi ? En remportant cette Ligue des Champions. Mais pour remporter cette Ligue des Champions, cela passe nécessairement par une finale. Pour se qualifier en finale, il faut sortir le Real de Madrid, vous l'avez dit, 14 titres, le Bayern 6 titres, c'est deux mastodontes du football européen, donc on va voir, mais ballotage un peu favorable au Real de Madrid, puisque le Real a le vent en poupe actuellement, comme vient de le dire Élisée Yacouba.
Et bien évidemment, dans l'autre demi-finale, le PSG fait face à Dortmund. Jules, les Parisiens devraient se méfier des Allemands qu'ils avaient déjà croisés en match de poule.
Bien sûr, et surtout que l'avantage était en gros passé du camp dans le camp allemand, une équipe allemande qui s'est beaucoup améliorée. Elle était considérée et avant comme une équipe romantique aimant le beau jeu et qui faisait de l'art pour l'art. Mais de plus en plus, l'équipe s'est équilibrée, elle a renforcé sa défense et elle s'est surtout se sublimée grâce à son public magique lors des grandes rencontres. Et contre le Paris Saint-Germain, ce sera la rencontre des outsiders peut-être les plus en forme actuellement. C'est un très grand match. Et Paris a fini d'assimiler le système, Luis Enrique, qu'il applique très clairement sur le terrain et spontanément. Et face à Dortmund, qui également est une équipe qui, lors des grandes occasions, se transcende, on aura pratiquement du 50-50. Mais Paris aura devant lui un redoutable adversaire.
Balle au panier avec la Basketball Africa League. On connaît les deux qualifiés directs de la conférence du Nil pour les playoffs. Sans surprise, eh bien, il s'agit du champion à titre Al Ahly du Caire et l'autre équipe novice hein, dans cette Basketball Africa League, Al Ahly de la Libye. Bangui Sporting Club se classe troisième et les City Oilers, dernier de cette conférence du Nil. Hamdine Sy, ce classement, j'allais dire, c'est un peu dessiné hein, depuis le début des matchs de cette conférence.
Tout à fait, Yacouba, la hiérarchie a été respectée parce que les deux Al Ahly d'Égypte et de la Libye ont quand même dominé la compétition, si je peux m'exprimer ainsi. Et ils se sont qualifiés, hein, logiquement, je pense que c'est normal. Maintenant, je pense qu'il faut parler de la performance des Libyens, puisque Al Ahly du Caire, on l'attendait, mais on n'attendait pas Al Ahly de Benghazi. Mais il faut le dire, hein, la bande à Souleymane Diabaté passe parce qu'ils sont deuxièmes, mais ils passent grâce à leur meilleur goal différence particulier, parce qu'ils étaient en ballotage avec Bangui Sport. Finalement, ils sont passés parce qu'ils ont battu Bangui à l'aller et Bangui les a battus au retour. Maintenant, grâce à un goal différence particulier, ils passent, ils deviennent deuxièmes. Maintenant, Bangui va attendre quand même la conférence Sahara qui va se disputer à Dakar au Sénégal pour pouvoir voir si ils vont passer ou pas, puisque Cape Town a déjà pris un ticket pour les meilleurs troisièmes. Maintenant, on va attendre de voir. Mais je pense que si on regarde cette conférence, le fait majeur, c'est non seulement la performance des Libyens, mais c'est la performance du Sourané, le pivot Joe Ryan, qui a battu quand même le record de points marqués depuis le début de la balle. 42 points dans un match de basket, il fallait le faire. Et le pivot de 30 ans l'a fait. Il était comme un robot, hein. Il était comme un robot dans son match. Il a joué 40 minutes et il a réalisé un double-double, 42 points. Et il a pris également 11 rebonds, ce pivot de 30 ans, 2m13 et 103 kilos. Il s'est vraiment illustré, Yacouba, dans cette compétition.
Justement, et donc on va rappeler que Akul, bien sûr, qui a 42 points dans un match et qui bat donc le record qui était précédemment détenu par Tyrell de Stoglin de l'AS Salé, 41 points, de même que Will Perry de Ferroviaro d'Abera, 41 points également. Alors, Jules, très rapidement, peut-être les regrets, c'est du côté de Bangui Sporting Club.
Oui, c'est de là que viennent les regrets, mais déjà la présence de cette équipe est à un tel niveau, après l'histoire tumultueuse qu'on connaît dans le pays, et est une chose qui est réconfortante. On ne tardera pas à les retrouver à un niveau supérieur, c'est sûr.
On espère bien retrouver donc Bangui Sporting Club à un niveau supérieur. Merci beaucoup Jules Valentin Ngoué, merci à Elise Mkpatine et Hamdine Sy, mais bien évidemment merci également à Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. C'est ici que se referme ce numéro de Sporama. Merci donc à tous. Chers auditeurs, merci aussi à vous de rester à l'écoute. Michel Joseph a réalisé cette émission. Je suis Yacouba Ouidraogo. On va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.